RCF. Comment le politique doit-il gouverner ? Et comment le chrétien doit-il penser et agir dans le monde ? Comment exercer son discernement pour forger un jugement juste face au pouvoir ? En 1660, Pascal écrivait trois discours sur la condition des grands pour instruire un jeune prince, le fils aîné du duc de Luynes. Quelles sont les difficultés et les défauts dont font preuve les princes, les gouvernants ou les grands de ce monde du fait même de leurs conditions, de l'exercice du pouvoir ? Pascal nous invite à une réflexion sur la conduite morale des grands, sur les mécanismes politiques et sociaux du pouvoir, sur le sens de l'ordre social et politique. Voici les questions auxquelles nous allons répondre avec notre invité, Laurent Thiérouin. Bonjour.
Bonjour Sarah.
Alors c'est une joie de vous recevoir une nouvelle fois dans Dialogue. Vous êtes professeur émérite de littérature à l'Université de Lyon, auteur de nombreuses études consacrées à l'œuvre de Pascal, en particulier les Pensées sur la justice, parues aux éditions de La Découverte en 2011, et plus récemment, en 2020, un ouvrage sur les lectures russes de Pascal. Alors aujourd'hui, notre boussole, c'est la pensée du savant, philosophe Blaise Pascal, qui réfléchit sur le pouvoir, sur la condition des grands, selon la langue du XVIIe siècle. Alors, la grandeur, qu'est-ce que ça signifie et quelle est pour Pascal l'origine de la grandeur ? Comment le comprend-il ?
Alors déjà, il faut changer complètement de repère quand on parle de Pascal, parce qu'on parle du XVIIe siècle, donc d'une société qui est non seulement inégalitaire, mais qui trouve que c'est très bien d'être inégalitaire. Ce n'est pas du tout une société comme la nôtre qui pense que plus on fait diminuer les inégalités, meilleur est l'ordre social. Donc Pascal essaye de penser la grandeur dans un cadre où, pour tout le monde, les grands ont une différence absolue, intrinsèque, avec les autres parties de la population. Donc quand il s'adresse... comme vous le disiez tout de suite, quand il s'adresse à un fils de duc, au fils de, donc au jeune prince d'Albert, de Chevreuse, il essaye de modifier la conception que ce grand a de lui-même. C'est-à-dire que le grand est persuadé qu'il est d'une autre nature. Il ne se considère pas comme égal. Et Pascal est partagé entre deux ordres de rationalité. L'une qui est la rationalité chrétienne, Pascal est un chrétien fervent, et pour un chrétien, il n'y a pas de différence entre les hommes. Mais c'est aussi quelqu'un qui adhère parfaitement à l'ordre politique qui est l'ordre de son temps, et pour qui il est tout à fait normal qu'un grand n'ait pas les mêmes prérogatives, les mêmes devoirs. Voilà. Donc comment, pour lui, articuler ces deux choses ?
Alors, il y a, parce que le contexte a changé, effectivement, ouais. Peut-être quelque chose qui reste intemporel. C'est une parabole au début des trois discours. Un homme qui est jeté par la tempête dans une île inconnue et qui est pris par les habitants pour le roi de cette île. Alors, quel est l'enseignement pour vous, Laurent Thiérouin, de cette petite parabole ou expérience de pensée,
pensée, oui. Donc, il s'agit, pour Pascal, de changer l'image du grand dans le cœur du grand lui-même. Pas changer l'ordre politique, mais faire qu'il ne joue plus à ce jeu avec la même pensée. C'est-à-dire, ce qui arrive, donc reprenons la petite parabole assez savoureuse. Donc un homme est jeté dans un naufrage sur une île, et sur cette île, il est pris pour le roi qui avait disparu. Donc tout le monde le considère comme un roi. Lui-même décide de se prêter à cette aubaine, mais évidemment, il ne peut en permanence que se rappeler que c'est par une sorte de malentendu. Il n'est en rien le roi. Il
c'est
a été pris pour un autre. C'est une forme d'usurpation, oui. C'est-à-dire d'usurpation non dans la mesure où il n'a rien fait pour, il s'est simplement contenté d'accepter qu'on fasse de lui un grand. Donc, l'enseignement proposé au jeune duc, c'est vous êtes traité comme un grand, c'est très bien, à condition que vous vous rappeliez en permanence au fond de vous-même que c'est une erreur, que vous ne l'êtes pas, que profondément, il y a là une sorte de malentendu. Donc, prêtez-vous à cet ordre, mais n'y croyez pas. Ce qui est un petit peu le maître mot de Pascal dans toutes ses élaborations politiques, ce qu'il appelle dans les pensées la pensée de derrière, c'est-à-dire accepter de jouer le jeu politique sans jamais considérer que ce jeu est un jeu fondé.
Mais c'est une pensée extraordinairement vivifiante et même un peu perturbante, parce que est-ce que ça signifie que le hasard régit finalement l'ordre social, l'obtention des grandeurs, des biens, que tout ça est finalement assez contingent, assez relatif, voilà. Et pourtant on y accorde quand même de l'importance, même si nous ne sommes plus au XVIIe siècle, ça c'est encore d'actualité,
voilà,
non
oui. Alors, pour Pascal, aucun doute, la réponse est oui, tous nos biens sont des biens aléatoires. Et éminemment les biens de ce jeune duc, et Pascal prend plaisir à lui parler, à lui rappeler ce qu'il appelle la rencontre de hasard qu'il a mis dans cette position. Donc il a fallu plusieurs choses, il a fallu toute une série de situations qui auraient pu ne pas être. D'abord que ses parents se rencontrent, pour lui donner naissance, et que ça, qu'il soit là. Ensuite que ses parents soient nobles. Ensuite qu'il y ait des lois comme celle de l'époque de Pascal, qui donnait au fils aîné d'un prince tout l'héritage de sa maison. Donc tout ça dépend de hasard juridique, de hasard existentiel. Rien en lui ne justifie la place où il se trouve. Donc, il s'agit d'une certaine manière, pour Pascal, plus que tout, de désautoriser ce prince. Qu'il ait conscience qu'il jouera au prince, mais qu'il ne sera pas prince, au fond de lui.
Alors, quelle différence y a-t-il entre le grand, le prince ici, et l'homme qui est pris pour un roi ? Est-ce qu'il n'y a aucune différence, on va dire ? Parce que la question, c'est quand même la question de la légitimité du pouvoir royal.
Oui, la légitimité...
Et de tout pouvoir.
Oui, enfin, oui. Ouais. Alors, une des grandes obsessions de Pascal, et qui est particulièrement marquée dans les pensées, c'est de s'opposer à la notion de mérite. Ce qui nous surprend un peu, car on a un peu l'impression que s'il y avait des personnes compétentes pour nous gouverner, ça serait aussi bien que si des personnes ne l'étaient pas. Et pour Pascal, et ça c'est une caractéristique de sa pensée qui peut troubler, la prise en compte de la réalité est toujours première. C'est ce qui lui reste de son ancien statut de géomètre et de physicien. Les faits sont têtus. Or, on ne peut pas se fonder sur le mérite et sur la compétence. Car la compétence n'est pas quelque chose d'objectif, pour le dire avec les mots de Pascal, tous diront qu'ils méritent. Le mérite n'est pas une bonne façon de choisir un prince.
Alors, je reviens à ce que vous aviez évoqué, à cette question de la double pensée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette double pensée et peut-être l'actualité de la double pensée aussi
ouais. Alors, double pensée, pensée derrière, hein, plus exactement, dans l'alias raison des effets, dans les pensées de Pascal. C'est ce qui amène quelqu'un à se comporter exactement pareil qu'un autre pour des raisons tout à fait différentes. C'est-à-dire à accepter un ordre dont il sait très bien que cet ordre n'est pas satisfaisant, n'est pas fondé. Alors, je parlais du mérite. Il y a aussi il y a peut-être un traumatisme de Pascal qu'il ne faut pas oublier, c'est la fronde. Nous, la Fronde, d'abord, peu de personnes se rappellent exactement ce que c'est. Ça a été une guerre civile pendant la minorité, l'enfance de Louis XIV. Le roi a été obligé de fuir nuitamment de Paris. Et donc, ça a été une vraie amorce de révolution. Alors, le roi n'a pas été tué, ça n'a pas été la Révolution française, elle aura lieu plus tard, mais ça aurait pu être la Révolution française. Et donc, plus que tout, Pascal est effrayé par le désordre, la révolution, le malheur que peut causer le dysfonctionnement politique.
Pascal distingue la condition naturelle et la condition sociale établie des hommes. On doit un respect extérieur aux grandeurs, mais dans le fond, qu'est-il juste de respecter ? Alors c'est une question qui est valable au XVIIe siècle et encore aujourd'hui pour tout sujet ou citoyen d'un État, et c'est aussi une question pour un chrétien. Alors, sur cette célèbre distinction dans les trois discours sur la condition des grands, la distinction entre les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles, en quoi consiste-t-elle ? Et finalement, à quoi nous renvoie aussi cette idée de nature en nous ? En quoi consiste tout d'abord donc cette distinction entre grandeur naturelle et grandeur d'établissement ?
Donc c'est quelque chose qu'on trouvait chez Montaigne déjà, qui demandait qu'on ne confonde pas Montaigne et le maire de Bordeaux. Donc Pascal estime, ce qui est original chez lui, c'est de systématiser exactement le processus en disant qu'il y a en gros une persona publique qui met donc qui de ce point de vue-là une grandeur qui n'a rien à voir. Et c'est ça qui peut nous troubler, qui est la chose peut-être la plus provocante. Il n'y a pas de rapport entre le statut d'une personne et ses compétences propres, et sa valeur intrinsèque, sa valeur naturelle, ce qu'il vaut par lui-même. Et donc, il ne faut pas confondre deux types d'estime. L'estime que l'on rend à cette grandeur que Pascal appelle une grandeur d'établissement, c'est-à-dire que on ne se comporte pas avec une personne publique importante, avec le maire d'une grande ville, avec le président de l'Assemblée nationale. On ne se comporte pas en face de lui comme vous et moi quand nous parlons ensemble à la radio, soit. Mais derrière cette grandeur d'établissement justifie pleinement une forme d'estime, de respect, qui est un respect d'établissement, mais qui n'a rien à voir avec un respect naturel. C'est-à-dire que les qualités de l'homme n'étant pas nécessaires pour la situation sociale qui est la sienne, eh bien, il ne pourra pas avoir d'autre estime que cette estime sociale.
Donc respecter les grands, c'est respecter leur place dans l'ordre social, mais ce n'est pas la même chose que respecter la personne.
Ce n'est pas la même chose que respecter la personne. Les deux peuvent être respectables. Rien n'empêche qu'une personne soit à la fois respectable par sa position et respectable que par sa nature, mais Pascal est tout à fait prêt à accepter qu'il n'y ait pas de rapport entre les deux.
Et alors, lorsque vous évoquez cette nature, cette grandeur naturelle, concrètement, ça fait référence à quoi, cette grandeur naturelle ?
Alors, dans les trois discours là dont nous parlons, Pascal parle beaucoup de l'estime que mérite un honnête homme, quelqu'un qui a des qualités qu'il ne développe pas. C'était un des grands, le grand héros du XVIIe. Si le héros du XVIIIe est le philosophe, le héros du XVIIe est l'honnête homme, c'est-à-dire celui qui est capable d'interagir avec vous dans une forme de respect, de construction, qui est à la fois civil, agréable, voilà. Donc ce sont ces qualités-là que Pascal met en relief dans les trois discours. Je tombe là, j'ai sous les yeux. Je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l'estime que mérite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferai encore justice. Car en vous rendant les devoirs extérieurs que l'ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerai pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit. Il y a chose fascinante, enfin qui moi me fascine chez Pascal, il y a un devoir de mépris. De même qu'il y a un devoir d'estime, on doit mépriser ce qui est méprisable. Et on est aussi fautif de ne pas rendre les honneurs relatifs à une situation sociale, par exemple les honneurs dus, que on est aussi fautif de ne pas rendre le mépris dû.
Donc c'est remettre finalement chaque grandeur à sa place.
Oui.
Juste, et par exemple, on peut croire qu'il y a une certaine grandeur dans le pouvoir, mais finalement, est-ce que ça n'est pas comprendre ce mépris qui fondamentalement n'est peut-être pas un mépris, mais que ce n'est pas la véritable grandeur ? Non ?
Oui. Que le pouvoir.
Du point de vue du chrétien, Pascal, est-ce qu'il n'y a pas cet enjeu là aussi ?
Oui.
Peut-être.
Pascal, dans les pensées, à quelques moments où il s'extasie devant la grandeur de la cité, d'avoir su tirer de la concupiscence un si bel ordre. il est capable de voir cette espèce de bon fonctionnement paradoxal. Que les hommes, étant ce qu'ils sont, arrivent à faire société et arrivent à mettre en place des régimes qui tiennent, c'est une marque de la grandeur de la grandeur des hommes, de la grandeur de l'homme lui-même. Après, il a pour les grands de chair, les rois, les capitaines, il a une estime qui est toute relative. Il les met dans une hiérarchie, on peut penser à la grande pensée de la gloire, la celle des trois ordres, donc la gloire des grands de chair, donc le roi, président de la République, mais ce n'est pas le cas à l'époque de Pascal, les grands d'esprit, les savants, et puis cette troisième catégorie qui est l'ordre de la charité, les saints. Et donc chacun bénéficie d'une gloire spécifique. Et ce qui est frappant dans la lecture de Pascal, c'est que ces gloires sont à la fois incommensurables et imperceptibles d'un ordre à l'autre.
Alors, ces distinctions qui restent quand même très subtiles, hein, que vous nous expliquez, impliquent peut-être une certaine gradation dont il faut prendre conscience, parce que on pourrait, par exemple, mépriser toutes sortes de grandeurs auxquelles qu'on devrait respecter. Et ça, c'est alors peut-être ce fameux point de vue du demi-habile, voilà, dont parle Pascal.
C'est très important. Je crois que, politiquement, ce qui caractérise le plus simplement Pascal, c'est le refus de l'utopie. On a tous en tête sa formule héritée de Montaigne, « Qui veut faire l'ange fait la bête ». Donc, essayer de bâtir un ordre social qui ne tiendrait pas compte du réel, c'est-à-dire du fait qu'il y a des méchants, par exemple, du fait que le mérite n'est pas une qualité évidente et qu'il peut toujours être mis en cause. Donc, agir ainsi, c'est produire le malheur. Donc, il est essentiel pour Pascal que se mette en place un ordre qui est réaliste, qui est tenable. Même s'il y a beaucoup d'égards, cet ordre est désolant. Et donc, je réponds enfin à votre question, il propose une gradation qui va du peuple, ce que lui appelle le peuple, dans un sens, on va dire, logique, qui est des gens qui, naïvement, pensent que les choses sont bien, qui penseront, par exemple, que des élections qui permettent de compter le nombre de voix qui sont derrière chaque candidat vont donner une légitimité absolument rassurante à la personne qui sera élue. Pascal envisage à un moment la possibilité d'un ordre politique reposant sur le nombre. Exactement. Voilà. Donc, le peuple, lui, trouve que l'ordre est bon. Viennent les demi-habiles qui montrent tout ce qui ne va pas dans l'ordre, qui montrent que les lois, d'abord par leur caractère changeant, par la différence de leur ressort, que ce qui est loi quelque part n'est pas loi ailleurs, que tout cela est dysfonctionnel. Et donc le demi-habile manifeste ce qui ne va pas dans l'ordre politique. Vient ensuite l'habile qui, lui, accepte le dysfonctionnement de la cité et montre qu'une résignation au dysfonctionnement de la cité est encore la meilleure des choses.
Dialogue, Sarah Brunel.
Alors nous relisons Blaise Pascal autour de la question du pouvoir avec Laurent Thirouin. Quel est le point de vue du chrétien sur la grandeur, sur la politique, sur le pouvoir? Comment un prince ou un gouvernant doit-il gouverner? Alors il y a chez Pascal une description du mécanisme du pouvoir qui se nourrit des désirs, des attentes, des croyances aussi, de la concupiscence effectivement du peuple ou des hommes proches, par exemple des courtisans aussi. Alors Ça pose, pour terminer, peut-être la question aussi de l'exercice même du pouvoir. Si on se place maintenant de ce point de vue-là, quel est ce juste exercice? Est-ce qu'il y a chez Pascal une réflexion sur ce juste exercice, par exemple, pour éviter la tyrannie?
Oui. Pascal, d'abord, a une définition très, très étrange de la tyrannie dans les pensées, et on reviendra après au discours, mais dans les pensées, il appelle tyrannie l'empiètement d'un ordre sur un autre ordre. Alors pour donner des exemples et que ça devienne clair, que la force s'impose en tant que force, Pascal n'appelle pas cela une tyrannie. Mais que la force essaye de s'imposer dans l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire que quelqu'un dise « je suis le plus fort, donc vous allez croire que, je sais pas, n'importe quoi, que le Big Bang existe », ou que le Big Bang est une vérité scientifiquement satisfaisante, ça c'est une tyrannie. Donc, il y a dans l'ordre des esprits une sorte de compétition qui permet à la théorie la plus juste de s'exprimer. Il y a dans l'ordre des corps une pure compétition qui est celle de la force. Que le plus fort s'impose n'est pas, pour Pascal, une tyrannie. Voilà. De toute façon, pour lui, le pouvoir est toujours lié au nombre. C'est toujours l'expression du plus grand nombre. Dans la langue du XVIIe siècle, cela se dit la pluralité, le fait d'être plus. Donc, pour lui, la démocratie, qui n'est pas le régime de la France du XVIIe, est une autre forme de règne de la force.
Alors, si je reviens à ma question initiale sur l'exercice juste du pouvoir, je reformule ma question finalement. Est-ce que le politique peut être un honnête homme ?
Oui. Alors, le politique peut être un honnête homme à condition qu'il ait conscience exactement de ce qui lui est demandé. Voilà. Et donc, il ne sera pas tyrannique s'il reste dans son rôle de politique. Et c'est en effet je vois le texte que vous avez derrière la tête, c'est le troisième discours. C'est celui où Pascal demande au roi, au grand, d'être ce qu'il appelle un roi de concupiscence. Donc le terme ne nous est pas familier ou paraît très très religieux. Que veut dire Pascal ? Il veut dire que ce qui fait le pouvoir d'un homme, c'est la capacité qu'il a de répondre aux désirs de beaucoup de personnes. On pourrait prendre, si vous m'autorisez une toute petite allusion politique un petit peu en dehors du temps de Pascal, on a bien vu comment quelqu'un qui n'avait aucun parti et a priori personne derrière lui, à partir du moment où il devenait président de la République, était entouré de gens qui n'aspiraient qu'à une chose, c'est être de ses amis. Mais pour Pascal, c'est normal, car devenu roi, alors chez nous ça se dit président de la République, mais c'est pas très différent, devenu roi, il devenait capable de donner, de distribuer tous les biens qui dépendaient de lui. Alors Pascal demande au roi d'exercer ce rôle de roi de concupiscence, c'est-à-dire d'être une sorte de répartisseur des biens, de régner, de ne pas traiter avec dureté, je le cite, « contentez les désirs, soulagez les nécessités, mettez votre plaisir à être bienfaisant, vous agirez en vrai roi de concupiscence. » Et il y a cette formule qui a toujours fait sourire, qui est assez méchante et qui montre bien la bizarrerie du statut de Pascal à la fin du troisième discours. Je lis Pascal, « Le moyen que je vous ouvre est sans doute plus honnête, mais en vérité, c'est toujours une grande folie que de se damner. Donc vous ne laisserez pas de vous perdre, mais au moins vous vous perdrez en honnête homme. » Donc c'est la proposition que Pascal fait au grand en charge de la cité.
Alors si le roi est toujours un roi de concupiscence, c'est-à-dire ce gouvernant ou ce prince ou ce président qui répond aux désirs et le mieux possible,
s'il possède des richesses et qui distribue des richesses.
Et qui distribue. Voilà. Le point de vue du chrétien, me semble-t-il, dans ce que vous avez lu, est d'aspirer aussi à autre chose que ça, c'est-à-dire à la charité. N'est-ce pas dire qu'il y a finalement une justice qui, pour le chrétien, est toujours au-dessus de cette...
Peut-être que la réponse de Pascal ne va pas vous faire tout à fait plaisir ou ne va pas faire plaisir aux gens qui nous écoutent. Et Pascal est prêt à penser l'ordre comme un ordre pénal. C'est-à-dire, que la cité dysfonctionne, que la justice ne puisse pas véritablement s'exprimer, ça lui paraît une nécessité logique et même une forme de peine. Et donc, la première chose qu'il dit, c'est que le chrétien doit accepter ce dysfonctionnement par une espèce d'humiliation consentie. Accepter que l'ordre du monde ne soit pas l'ordre de la justice.
Mais alors, est-ce que ça signifie se résigner à cet ordre-là ?
D'une certaine façon, oui. Alors, ça pose le problème, ce qui a été reproché à Pascal, il y a incontestablement une forme de conservatisme. Il y a le souci que tout change, il y a la conviction que tout changement d'ordre est par définition lourd de danger et pire somme toute que l'ordre en place. Mais il faudrait bien voir qu'en même temps, et c'est ça qui est difficile parce qu'on a très vite la lecture d'un Pascal complètement conservateur et même cynique, acceptant toutes les injustices parce que ces injustices en place et qu'il faut mieux tout accepter plutôt que changer. Mais il y a en même temps chez Pascal la définition d'une justice essentielle et la conviction que le monde va vers cette justice. Et si vous me permettez de citer un texte qui n'est pas toujours cité parce qu'on va rarement dans les provinciales, malgré la beauté, mais c'est un texte plus compliqué. Et un des plus beaux textes de Pascal, peut-être une des phrases, une des pages les plus vibrantes qu'il ait écrites, c'est la conclusion de la 12e provinciale. Donc dans les provinciales, Pascal a expérimenté la tyrannie. Et donc, il se rend compte qu'il n'arrive pas à lutter contre l'injustice. Et il s'adresse, alors ses ennemis sont les pères jésuites, qui sont en train d'opprimer son camp qui suit Port-Royal, et il leur dit la chose suivante. « Les injures que vous me dites n'éclairciront pas nos différends, et les menaces que vous me faites en tant de façon ne m'empêcheront pas de me défendre. Vous croyez avoir la force et l'impunité, mais je crois avoir la vérité et l'innocence. » Et voilà le passage qui est extraordinaire. « C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence essaie d'opprimer la vérité. Tous les efforts de la violence ne peuvent affaiblir la vérité et ne servent qu'à la relever davantage. Toutes les lumières de la vérité ne peuvent rien pour arrêter la violence et ne font que l'irriter encore plus. Quand la force combat la force, la plus puissante détruit la moindre, quand l'on oppose les discours aux discours, ceux qui sont véritables et convaincants confondent et dissipent ceux qui n'ont que la vanité et le mensonge, mais la violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. »
La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Cette réflexion de Pascal dans les provinciales nous invite à exercer notre discernement, un va-et-vient constant entre réflexion et action pour interroger la légitimité du politique. Merci infiniment Laurent Thiroin pour cette lecture de Pascal. Merci également à Pascal Gauthier à la réalisation technique.